Bonjour Serge.
Bonjour Eric et bonjour à tous. À la une de l'actualité, la joie, les cris, les larmes des Rennais. Vainqueurs de la Coupe de France hier soir au Stade de France face aux Parisiens. Battus 6-5 au terme d'une séance de tirs au but haletante. Des Rennais qui mettent fin ainsi à 48 ans de disette. Dans l'actualité également, la réponse des Gilets jaunes aux propositions d'Emmanuel Macron. Des Gilets jaunes qui ont enregistré hier l'une de leurs plus faibles mobilisations. Jour de vote aujourd'hui en Espagne pour des législatives qui pourraient permettre à l'extrême droite de rentrer en force au Parlement et journée nationale du souvenir de la déportation en France. À 8h10, le journal des sports présenté par Laetitia Bernard et à 8h20, un invité que nous connaissons bien ici à Radio France, Éric Delvaux.
Oui, l'historien Jean-Noël Jeannenet, effectivement ancien PDG de Radio France, à un mois des élections européennes. Question ce matin sur la place de la culture en Europe.
France Inter.
Et tout d'abord, donc, cet événement sportif historique avec la victoire hier soir du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain en finale de la Coupe de France. Une victoire remportée par les joueurs bretons à l'issue d'un match plutôt haletant et qui s'est terminé par un score de 2-2 et au terme d'une séance de tirs au but remportée par les Rennais 6-5. Une rencontre qui a eu pour décor le Stade de France, donc en présence du président de la République, mettant un terme ainsi aux espoirs du PSG, quadruple tenant du titre et offrant donc la troisième Coupe de France aux Rennais après celle remportée en 1965 et 1971. Une rencontre suivie et vécue par l'un de nos reporters, Cédric Guillou.
L'explosion de joie des supporters rennais au moment où Christopher Nkunku, le Parisien, a envoyé son tir au but au-dessus de la transversale, a été magique, intense. Des supporters qui sont restés de longues minutes, de très longues minutes, dans les tribunes du Stade de France pour savourer ce succès.
Oh là là, c'est du bonheur. Ouais, là, j'ai encore les larmes à l'œil.
Une grande émotion, parce que moi, j'ai vécu 71, mais j'étais tout petit, et on réalise enfin un rêve, quoi.
48 ans que le Stade rennais attendait de dépoussiérer son armoire à trophées. Le milieu de terrain Benjamin André a de quoi être fier.
Pour tout ce qui a été fait, moi, depuis que je suis arrivé, tous les coachs que j'ai eus, tous les présidents que j'ai eus, on a toujours été dans une certaine progression. Et cette année, c'est l'aboutissement d'un travail qui a débuté il y a très longtemps.
Après 3 finales perdues sur ces 10 dernières années, le club breton a quitté le Stade de France avec le sourire. Et son capitaine emblématique, Romain Danzé, blessé hier soir, a enfin gagné le droit d'être heureux.
J'en reviens pas. On arrive à gagner. Enfin.
La fête a duré toute la nuit à Rennes et elle n'est pas terminée. Les joueurs rennais présenteront la Coupe de France à leurs supporters dans l'après-midi.
Une rencontre sur laquelle ne manquera pas de revenir Laetitia Bernard dans son journal des sports à 8h10.
On attendait une réponse de la part des Gilets jaunes aux propositions d'Emmanuel Macron. Eh bien, cette réponse est venue de la rue hier pour ce 24e samedi de mouvement, mais avec une mobilisation moindre.
Si l'on en croit en effet les chiffres du ministère de l'Intérieur, ils auraient été 23 800 Gilets jaunes recensés à travers toute la France hier. 6 000 de moins que le week-end dernier, soit l'une des plus faibles mobilisations depuis la mi-novembre. Des Gilets jaunes qui, eux, avancent le chiffre de 60 000 participants. L'occasion, en tout cas, pour ces Gilets jaunes de faire entendre leur réaction à l'intervention du président de la République jeudi dernier. Une intervention et des propositions qui, visiblement, ne les ont pas convaincus, si on en croit ce manifestant, Ahmed, rencontré dans la manifestation de Marseille par Marie-Christine Lauriel.
On est là, on y reste. Ça fait 6 mois qu'on est là, qu'on demande le RIC, qu'on demande une évolution de la situation. Et ça fait 6 mois qu'il nous entend pas. Son discours, il nous a pas parlé. Il regardait même pas la caméra, en fait. Il parlait à son gouvernement, il parlait à ses journalistes, il ne parlait pas à son peuple. On a demandé le RIC, il a dit non. Il a dit le RIC au niveau local. Moi, j'ai pas envie de choisir la couleur des poubelles. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est participer, voir la vie politique, nos représentants, comment on peut les aider. Moi, j'ai un patron, hein, quand je travaille mal, il me met dehors. Hein, ou bien il me fait des remarques, ou bien il me donne des avertissements. C'est nous le patron de la politique.
Quelques violences ont été constatées à l'occasion de ce 24e acte, non pas à Paris, mais à Strasbourg, lorsqu'une manifestation non déclarée a voulu s'approcher du Parlement européen. Des Gilets jaunes qui se donnent maintenant rendez-vous le 1er mai, autrement dit, mercredi prochain.
On vote aujourd'hui en Espagne pour des élections législatives qui pourraient donner lieu à une entrée massive de l'extrême droite au Parlement.
Et il s'agit du 3e scrutin en 3 ans et demi, des élections législatives anticipées qui font figure de test avant les prochaines européennes et qui pourraient donc permettre, en effet, une arrivée conséquente d'élus d'extrême droite dans l'enceinte du Parlement espagnol. Aux dernières législatives, le récent parti d'extrême droite Vox avait obtenu 0,2% des voix. Il est cette fois-ci crédité d'un score pouvant atteindre ou dépasser même les 12%. Madrid, Isabelle Laberry.
De toute son histoire, le Parlement espagnol n'a connu
qu'un seul député d'extrême droite. Élu lors des premières élections libres en 1979, il n'a d'ailleurs fait qu'un seul mandat. Après la dictature franquiste, l'extrême droite est en effet restée un phénomène résiduel. Aujourd'hui, Vox est porté par un contexte mondial favorable au populisme, mais c'est surtout la crise catalane qui l'a fait émerger. Son chef, Santiago Abascal, conquistador des temps modernes, dénonce la mollesse des dirigeants face aux indépendantistes et se pose en garant de l'unité de la nation. Il est d'ailleurs le seul candidat à réclamer la suppression des régions et l'interdiction des partis indépendantistes. Anti-immigration, anti-avortement, favorable au port d'armes, Vox est libéral sur le plan économique tout en défendant la chasse et la corrida. Porte-voix d'une Espagne qui ne veut plus avoir peur de se dire patriote, il est désormais prêt, comme il l'a fait en Andalousie en décembre, à jouer les troubles fêtes. Madrid, Isabelle Labéry, France Inter.
Ouverture des bureaux de vote à 9h ce matin, heure de Paris. À l'étranger, encore en bref, un mort et 3 blessés. C'est le bilan d'une fusillade qui s'est produite hier soir aux États-Unis dans une synagogue proche de San Diego. Selon les autorités locales, un individu de 19 ans a été arrêté. Il pourrait s'agir du tireur. Une fusillade dans une synagogue qui intervient 6 mois après celle de Pittsburgh le 27 octobre dernier et qui avait fait, elle, 11 morts.
C'est aujourd'hui dimanche 28 avril, la journée nationale du souvenir des victimes et des héros de la déportation.
Une journée célébrée dans tout le pays par des cérémonies commémoratives, l'occasion également de se souvenir de ceux ou de celles qui se sont illustrés lors du dernier conflit mondial. C'est le cas de deux Stéphanoises, Juliette Vidal et Marinette Guy, deux femmes méconnues qui n'ont pas de rue ou de plaque commémorative à leur nom, mais que les 200 personnes qu'ils ont pu sauver de la déportation n'ont jamais oublié. Hélène Loison de France Bleu Saint-Étienne Noir.
Et c'est peu dire puisque toute leur vie, elles sont restées en contact avec les personnes qu'elles ont protégées. Au total, Juliette et Marinette ont sauvé des dizaines de femmes juives en leur donnant un faux nom et un métier pour passer inaperçus, mais aussi des enfants par centaines cachés dans les fermes de la Loire puis dans une colonie de vacances à Chamonix. Là-bas, malgré la guerre, elles ont voulu une ambiance familiale et apaisante pour ces enfants. Christine, la belle-fille de Juliette et Marinette, a pu parler à certains d'entre eux.
Ces souvenirs-là de la guerre, pour eux, c'était des bons souvenirs. À chaque fois, ils nous le disent. Ils nous disent pas qu'est-ce qu'on avait peur, on était cachés, gnagnagni, nanana, rien du tout, tout ça. Oh là là, on allait se promener, on faisait des concours de ceux qui ramassaient le plus de myrtilles, ils lisaient par terre sur le trottoir, ils chantaient leurs fêtes, aussi bien les Noëls que tous les fêtes juives, les Hanouka, etc. On les cachait tellement bien que c'était un jeu. J'ai des photos des enfants déguisés dans la rue de Chamonix.
Devenus adultes, certains se sont même cotisés pour leur offrir à toutes les deux un chalet à Chamonix. Aujourd'hui, leur fils adoptif y habite. Tous les ans, depuis 60 ans, il reçoit une caisse d'orange en provenance de Jaffa, en Israël. Un cadeau envoyé par des enfants juifs sauvés par ses mères adoptives.
C'est également aujourd'hui la journée mondiale de la santé, de la sécurité au travail. Chaque jour, une personne décède en France d'un accident du travail, selon Jérôme Vivenza, en charge des questions de travail et de santé à la CGT. Après l'expression « en voiture Simone », apprêtez-vous à entendre « en trottinette Simone ». Simone étant en effet le nom donné par deux ingénieurs de Renault Douai à leur réalisation. Une trottinette extrêmement compacte, présentée à l'heure actuelle au concours Lépine, dans le cadre de la Foire de Paris. Raffaella Biri-Vezante.
Et voilà Simone.
En deux temps trois mouvements, les 8 tubes en aluminium de Simone sont assemblés et on peut facilement rouler le fameux dernier kilomètre entre les transports en commun et notre destination. Un dernier kilomètre qui s'applique aussi aux automobilistes selon Rémi Montagne, cofondateur.
Quand vous prenez votre voiture pour aller travailler en ville, rarement vous pouvez vous garer en face de votre lieu de travail. Vous devez toujours parcourir 600, 800 mètres et généralement on voit une première place à 800 mètres. On la prend pas en se disant allez je vais essayer de trouver une place plus proche et puis finalement cette place elle n'existe pas.
Simone peut se glisser dans un sac à dos, le concept séduit la gendarme. Marie de Valenciennes explique Steven Pingon, l'autre cofondateur.
La gendarmerie est intéressée dans le cadre de ce qu'on appelle la police de sécurité du quotidien. Une police qui se veut plus proche des citoyens. Et donc pour cela, ils veulent utiliser des véhicules qui soient différents pour avoir une image différente. Comme on a pu voir la police équestre par exemple, c'est le même principe, la trottinette, surtout Simone a une image plutôt sympa.
Si le test est concluant, Simone pourrait rejoindre d'autres casernes de France. Simone qui a déjà une petite sœur en gestation, assure Rémi Montagne.
Et Simone, alors c'est une petite sœur qui sera un petit peu plus lourde, elle va prendre un embonpoint de 1,5 kg puisqu'elle sera électrique.
Puis il y aura ensuite la grande Simone qui, elle, sera utilisée en libre service.
Raffaella Biri-Vicente de France Bleu Nord. Et sachez que la foire de Paris, elle, c'est jusqu'au 8 mai, porte de Versailles. C'est la fin de ce journal, sans tambour ni trottinette. Je laisse la place à Eric Delvaux.
Je vous laisse la trottinette, effectivement.